VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, du matériel électoral destiné au scrutin législatif et communal du 5 juin brûlé ce matin au sud de la capitale par des adversaires d'un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Par ailleurs, reprise des manifestations à Bujumbura aujourd'hui. La journée d'hier avait été marquée par des tirs nourris et incessants de la police dans la capitale, ce qui n'a pas empêché les manifestants de continuer leurs protestations. Toujours au Burundi, les médias indépendants restent dans le collimateur des autorités. À preuve, la justice burundaise réclame des comptes à Innocent Muhoozi, le patron de Radio Télé Renaissance, organe privé détruit durant le coup d'État manqué. Il n'a toujours pas accès à ses locaux. Le témoignage d'Innocent Muhoozi au micro d'Idriss Fall.
Ça fait un moment que les policiers ceinturent tous les bâtiments qui ont été attaqués et interdisent l'accès. Et nous avons une décision du procureur général de la République qui précisait qu'il était interdit d'accéder à ces locaux pour raison d'enquête et qu'il était strictement interdit d'y entrer sans autorisation préalable du parquet. Donc nous n'arrivons pas à entrer dans le locaux, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que ça pourrait être lié au fait que votre radio avait diffusé le message des putschistes?
Ça peut être lié à ça, ça peut être lié aussi à une animosité qui s'est développée ces derniers temps envers les médias indépendants. Donc c'est clairement, à mon avis, les deux aspects. Ce n'est pas venu comme ça brutalement. Non, il y avait une animosité déjà, une incompréhension depuis bien longtemps entre les pouvoirs publics et les médias indépendants qui étaient là et qui tournent à l'agression de plus en plus physique, même des journalistes, avant qu'il n'y ait eu ces attaques en règle.
Qu'en est-il de l'ensemble des radios privées?
Non, il n'y en a plus une seule. Les seules radios qui restent, ce sont des radios spécialisés, disons, sur des domaines très précis, mais pas d'information générale. Donc les principaux médias qui donnaient l'information, qui participaient au débat, qui animaient le débat, n'existent plus du tout. Ils ont été physiquement liquidés, c'est aussi simple que ça.
Et ça va prendre combien de temps pour réparer tout ça?
Si on ne nous empêche pas maintenant par divers stratagèmes politiques de recommencer, on peut se débrouiller et pouvoir avoir une ou deux qui puissent être remises sur les ondes assez rapidement, mais pour l'instant, il faut qu'on arrive à surmonter l'obstacle politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique de nous laisser travailler ou pas? C'est ce que nous essayons de vérifier maintenant.
Innocent Muhoozi, le directeur de la radio-télévision Renaissance. Au Burkina Faso, la société civile n'apprécie pas les mises en garde du 47e sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana, cette semaine, concernant la transition dans le pays et toute possible exclusion dans le processus électoral. On écoute la réaction d'Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou, au micro de Bagassi Koura.
La CEDEAO l'a fait probablement en pensant que nous avons, nous, au Burkina Faso, nous avons dans la loi sur le code électoral exclu des personnes. Mais nous n'avons exclu personne. Pour qui lit la loi, c'est une loi qui n'exclut pas des individus, mais c'est une loi simplement qui sanctionne des personnes qui ont voulu corrompre la Constitution. Et nous sommes très surpris de cette décision de la CEDEAO.
Peut-être que malgré toutes les explications, les Burkinabés n'ont pas encore pu convaincre la communauté internationale que cette loi n'est pas une loi exclusive.
Nous n'avons peut-être pas pu convaincre certaines personnes physiques et morales, mais simplement pas parce que nous n'avons pas d'arguments ou que nos arguments ne sont pas justes, mais parce que ces personnes ont d'autres intérêts et qui ne sont pas les intérêts du Burkina Faso. Je le dis sans embâche. Où étaient ces personnes en octobre 2014, lorsque le pouvoir d'alors a voulu corrompre la Constitution pour pérenniser le pouvoir de celui qui était président? Où était le président de la Côte d'Ivoire, pour ne pas le nommer? Où était le président de la commission de la CEDEAO, pour ne pas le nommer?
Et Alassane Ouattara, à son retour à Abidjan, a aussi parlé du fait que l'exclusion ne sera pas acceptable au Burkina Faso.
Oui, mais il prend vraiment une très grande liberté de dire en tant que président de la Côte d'Ivoire, que l'exclusion ne serait pas acceptable au Burkina Faso. Eh bien, alors qu'il use des moyens qu'il a en tant que président de la Côte d'Ivoire pour venir nous obliger, nous, au Burkina Faso, à revenir sur la loi que nous avons adoptée.
Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Un récent rapport publié par l'ONG Greenpeace accuse des chalutiers chinois de piller les ressources halieutiques des pays d'Afrique de l'Ouest. Selon le document, des centaines de ces navires pêche une quantité non déclarée de poissons au large des côtes de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée, en ayant recours à des méthodes destructrices interdites dans plusieurs pays, notamment en Chine même. Pour en savoir davantage, Timothée Donangmaï a joint à Dakar El Ali Haïdar, président d'Océanium, une association de protection de l'environnement.
Les ressources de l'Afrique, en général, sont pillées par les multinationales, sont pillées par des mafias, des mafieux, parce qu'en face, très souvent, hélas, des gouvernements faibles ou des gouvernements corrompus sont avides de trouver de l'argent. Mais je trouve la mémoire de Greenpeace trop sélective parce que on ne doit pas et on ne peut pas accuser seulement des bateaux chinois alors que d'autres bateaux, notamment de grands groupements qui sont ici, font exactement la même chose et personne ne parle d'eux. Et je trouve même inquiétant que le chargé de communication de Greenpeace Sénégal, M. Koulibaly, soit le frère du groupement des armateurs industriels du Sénégal, qui est M. Koulibaly.
Quelle est la situation que vous déplorez au niveau de votre pays?
Ce que je déplore au niveau de l'Atlantique en général, c'est que vous savez, si vous vous rappelez, en 2006, on avait des accords avec l'Union européenne qui permettaient aux bateaux de l'Union européenne de pêcher le démersal côtier, donc en concurrence avec la pêche artisanale, qui permettait de pêcher le petit pélagique, donc en concurrence avec la pêche artisanale, qui permettait de pêcher le thon, notamment le thon listao, qui n'est pas en concurrence avec la pêche artisanale, parce que la pêche artisanale n'a pas accès à ces ressources, et qui permettait de pêcher le démersal profond, qui n'est pas en concurrence avec la pêche artisanale. Quand en 2006, on a arrêté ces accords de pêche, les bateaux industriels n'ont pas quitté le territoire sénégalais. Les bateaux sont restés là, ils ont monté des sociétés, ils ont installé un mécanisme financier qui leur permet, et tous autant qu'ils sont, qui leur permet de pêcher nos poissons, de l'expédier dans leur pays, et cela sans payer de droits. Quand ils n'ont pas assez pêché, ils se permettent même d'aller dans les marchés et dans les villages de pêcheurs pour acheter du poisson, et ils exportent 100% de ce produit-là vers leur pays.
El Ali Haïdar, président d'Océanium à Dakar. L'actualité hors d'Afrique, en Syrie, nouveau progrès des rebelles islamistes dans le nord du pays aujourd'hui dans leur lutte contre le régime du président Bachar Assad. Selon l'Observatoire syrien pour les droits humains, le front al-Nusra affilié à Al-Qaïda a finalement pris le contrôle d'un hôpital des environs de la localité de Jish al-Shughour, assiégé depuis des semaines. Des dizaines de soldats gouvernementaux et autres loyalistes pro-Assad s'y étaient retranchés et repoussaient toutes les attaques depuis fin avril. Ici à Washington, le président Barack Obama a accordé à la Tunisie le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. C'était à la faveur de ses entretiens hier à la Maison-Blanche avec son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi, Lionel Gaïma.
La Tunisie est ainsi devenue le 16e pays au monde à être honoré de la sorte. Le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN permet aux États-Unis de nouer des alliances hors du cadre de l'Alliance Atlantique. Il ouvre la voie au renforcement des relations militaires et financières avec les pays concernés, sans pour autant aboutir à un accord de défense mutuelle. Les États-Unis croient en la Tunisie, a déclaré le président Barack Obama en promettant de continuer d'appuyer les réformes démocratiques entreprises par ce pays à la faveur du printemps arabe, des réformes qui ont permis au président Essebsi de devenir le premier leader démocratiquement élu de la Tunisie. La Maison-Blanche a demandé au Congrès 138 millions de dollars d'aide en faveur de la Tunisie, dont plus de 62 millions pour la partie militaire.
On reste aux États-Unis. En Californie, l'état d'urgence décrété dans la zone touristique de Santa Barbara à la suite d'une fuite de pétrole brut au nord-ouest de Los Angeles. Le point avec Eddie Isango.
Le gouverneur Jerry Brown a pris cette décision 24 heures après la découverte de cette fuite de pétrole dans une zone touristique à Refugio State Beach. L'état d'urgence permet à la Californie de débloquer ainsi les sommes prévues pour aider à nettoyer les zones polluées. La fuite aurait été causée par la rupture d'un oléoduc. La nappe polluante s'étend maintenant sur 14 km le long de la côte pacifique. La compagnie responsable de l'oléoduc a présenté ses excuses pour les dégâts causés à l'environnement et assuré qu'elle poursuit les opérations de nettoyage 24 heures sur 24. Plusieurs groupes écologistes s'alarment des éventuelles conséquences à long terme de cette marée noire.
Et pour terminer, l'insurrection du groupe islamiste nigérien Boko Haram a causé une des pires crises humanitaires d'Afrique et des fonds supplémentaires sont nécessaires afin de porter secours aux victimes. C'est ce qu'a affirmé hier le comité international de la Croix-Rouge. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Au cœur de l'info.